Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord pour cette semaine d'exploration sur ces chemins de la philosophie qui n'auront jamais aussi bien porté leur nom. Car c'est bien en mouvement, en marche et au-delà des frontières que l'âme se découvre le plus en profondeur. Et c'est avec Alexis de Tocqueville, de l'Amérique à l'Algérie, que nous embarquons aujourd'hui. Et avec vous, Lucien Jaume, bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous allez nous guider sur les pas de Tocqueville. Vous êtes philosophe et historien des idées politiques au CEVIPOF à Sciences Po. On vous doit, en ce qui concerne notre sujet du jour, une biographie intellectuelle de Tocqueville. Tocqueville, les sources aristocratiques de la liberté, qui a eu le prix Guizot de l'Académie française et qui est traduit aux États-Unis. C'est chez Fayard. Comment avez-vous découvert Tocqueville ?
La réponse est simple et très claire. C'est par François Furet. J'ai commencé mes travaux de recherche sous la direction de François Furet, notamment sur le jacobinisme, le discours jacobin et la démocratie chez Fayard. Et Furet nous a montré que Tocqueville, par sa pensée de la démocratie, c'est-à-dire fondamentalement la grande tendance de toutes les sociétés, au moins occidentales, vers l'égalité, Furet nous a montré que sa réinterprétation de la Révolution française, dans son livre « Penser la Révolution française », 1978, ma rencontre avec Furet, ça date des années 1980-82, il nous a montré donc que Tocqueville lui permettait une lecture nouvelle de la Révolution française. Voilà. Mais j'ai mis beaucoup de temps à oser écrire sur Tocqueville parce que j'étais très très impressionné par l'auteur. Et en réalité, vous voyez, entre 1982, ma rencontre avec Furet, et 2008, la date de publication de mon livre, vous pouvez calculer, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver peut-être une certaine sagesse.
Tocqueville, j'avais essayé une première fois il y a longtemps. J'avais trouvé ça quand même un peu ennuyeux. Et j'ai réessayé il y a 2 ans et j'ai été foudroyé. Réellement. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme étranger à destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant aux demeurants de ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Et c'est très bien écrit, hein, là, c'est ponctué magnifiquement. La répartition des deux points et des points virgules dans les paragraphes est magnifique, quoi. C'est foudroyant, hein, ce genre de truc, Bon, tout n'est pas de ce niveau, mais c'est un livre, qui est quand même foudroyant de la démocratie en Amérique.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Crossed the deserts bare, man, I breathed the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere.
Lucien Jaume, on a entendu une archive de l'écrivain Michel Houellebecq qui déclare son admiration pour Alexis de Tocqueville et notamment pour ce texte très connu de la démocratie en Amérique. C'est la fin de la démocratie en Amérique lorsqu'il décrit le despotisme démocratique. On réduit souvent Tocqueville, on approche souvent en tout cas Tocqueville par son voyage en Amérique et ce texte-là. Pourquoi on n'a pas en tête que Tocqueville finalement c'est aussi un voyageur qui a parcouru bien d'autres terres que l'Amérique ?
Oui, parce que ce thème du pouvoir prévoyant et doux, comme il dit, n'est-ce pas, c'est merveilleux ça, prévoyant et doux, je suis comme Houellebecq, là, je suis en admiration, parce que ce thème a été récupéré dans le conflit de la guerre froide. N'oubliez pas que Tocqueville est redécouvert très tard en France avec Raymond Aron, n'est-ce pas? Et donc, dans les conflits de la guerre froide, Tocqueville servait d'arme idéologique contre le communisme.
Il sert encore d'ailleurs d'armes, tantôt on le lit plutôt à droite, plutôt à gauche, du côté de la démocratie, du côté de la République, on ne sait pas trop, il est plutôt inclassable. Mmh. Et effectivement, il a une position inclassable. Comment on peut approcher Tocqueville et approcher aussi le fait que Tocqueville n'était pas qu'un homme politique, mais pas qu'un historien, pas qu'un sociologue, mais aussi un grand voyageur, un grand observateur du monde.
Et on peut l'approcher sous l'angle suivant, c'est un homme passionné par la condition humaine. C'est un homme qui adore observer et il observe à la fois avec gentillesse, avec ouverture d'esprit et en même temps avec une ironie terrible. Il a une culture janséniste, c'est très important, une culture janséniste, parce que cela veut dire à la fois un grand pessimisme sur la nature humaine et en même temps un sens du destin, un sens de l'infini, un sens de l'importance des passions. Il est passionné par la condition humaine. Je reprends le titre de Balzac, il est passionné par la condition humaine.
Et en même temps, il est complètement fasciné, c'est-à-dire que lui-même dit, il déclare, on parle de Tocqueville qui est inclassable, j'insiste sur le fait, parce que c'est une semaine sur l'exploration et le voyage, qu'on n'insiste pas assez sur cette dimension de terrain de Tocqueville, mais lui-même disait qu'il est une énigme pour lui-même.
Ah oui, par-dessus le marché, ça c'est bien janséniste, n'est-ce pas? Notre cœur nous est caché à nous-mêmes. Pierre Nicole, Blaise Pascal, il a écrit en effet dans une lettre qu'il était une énigme pour lui-même. Ça c'est très caractéristique justement de cette culture janséniste. Il y a même une lettre à son ami Stoffels en 1843 où il plagie Pascal, Blaise Pascal. « Quelle misère, écrit-il, que celle de l'homme ?» Rien que ce mot déjà, hein, « quelle misère que celle de l'homme », c'est du Pascal. « Quelle misère que celle de l'homme qui est plongé dans une si irrémédiable ignorance de toute chose qu'il ne se connaît pas plus lui-même que les objets les plus éloignés et ne voit pas plus clairement le fond de son âme que le centre de la terre. » Ça, c'est très très janséniste.
Est-ce que c'est pour ça qu'il est parti finalement de France, découvrir le monde, découvrir l'Italie, les États-Unis, l'Algérie, la Suisse, l'Angleterre, l'Irlande, mais aussi même, on pense, caresser le projet d'aller en Inde.
Il y a deux raisons. Il est parti conjoncturellement parce que le choc de la révolution de Louis-Philippe, la prise de pouvoir par la bourgeoisie en 1830, n'est-ce pas, l'échec des royalistes légitimistes, ça l'a poussé à quitter la France pour aller voir une démocratie de protestants, alors que tout son milieu légitimiste et contre-révolutionnaire disait qu'une démocratie de protestants, c'est pas possible. Et puis la deuxième raison, alors la raison de fond, le tempérament dont vous venez de parler, c'est son immense curiosité pour ce que l'homme peut créer et finalement ce que la démocratie peut créer.
Quand les premiers coups de tonnerre retentirent, l'agitation régna un instant sur le vaisseau. Le vent augmentait avec une rapidité terrible. Le tonnerre s'approchait. Chaque éclair illuminait un moment l'étendue, puis nous nous retrouvions plongés dans l'obscurité la plus complète. Les vagues bouillonnaient autour de nous avec une énergie dont je n'avais pas idée. On eût dit une immense chaudière en ébullition. Je me rappellerai toute ma vie l'impression profonde que j'éprouvais lorsque, dans un moment de calme, j'entendis un certain nombre de voix sourdes répéter les réponses d'un psaume à côté de moi. Je cherchais d'où partaient ces voix et je vis qu'elles s'élevaient de dessous une voile où s'étaient réfugiés 10 ou 12 pauvres passagers. Quel est le philosophe si sûr de ces systèmes qui n'eût été tenté de faire comme eux à la vue de cette terrible manifestation de la toute-puissance divine ?
Thank you.
voilà donc enfin, nous disions-nous, cette Sicile, le but de notre voyage, le sujet de nos entretiens depuis tant de mois. La voilà tout entière sous nos pieds. En tournant sur nous-mêmes, nous pouvons la parcourir en un instant. Nous en touchons des yeux tous les points, presque rien ne nous en échappe, et elle est bien loin d'occuper l'horizon. Nous venions d'Italie. Nous avions foulé la cendre des plus grands hommes qui furent jamais et respiré la poussière de leurs monuments. Nous étions pleins des grandeurs de l'histoire. Mais autre chose encore parlait ici à l'imagination. Tous les objets que nous apercevions, toutes les idées qui venaient s'offrir en foule à notre esprit, nous reportaient au temps primitif. Nous touchions aux premiers âges du monde, à ces âges de simplicité et d'innocence où les hommes n'étaient point encore attristés par le souvenir du passé ni effrayés du vague de l'avenir, où, contents du bonheur présent, confiants dans sa durée, ils recueillaient ce que la terre leur donnait sans culture, et, près des dieux par la pureté du cœur, ils en rencontraient encore à chaque pas la trace et vivaient en quelque sorte parmi eux. C'est ici que la fable nous montre les premiers hommes. C'est ici la patrie des divinités de la mythologie grecque.
Entre décembre 1826 et jusqu'à avril 1827, Alexis de Tocqueville, avec son frère Édouard, parcourt l'Italie, Rome, Palerme, Syracuse, l'Etna et puis la Sicile, qui donnera ce texte « Voyage en Sicile » dont on vient d'entendre un extrait interprété par le comédien Georges Clès. Alors là, on entend un Tocqueville qui n'a rien à voir avec le Tocqueville de la démocratie en Amérique, beaucoup plus romantique, beaucoup plus lyrique.
C'est un texte de jeunesse, hein, il a 20-21 ans. Et c'est un texte, si beau soit-il, qui quand même est presque un pastiche d'écrivain de son temps, et notamment l'écrivain qui compte beaucoup pour lui, avec lequel il a une relation à la fois familiale, d'admiration et de jalousie, j'ai nommé Chateaubriand. N'oublions pas qu'il n'a pas publié ce texte. Hein. Nous devons cela à son frère et puis, je crois, à Gustave de Beaumont. C'est un écrit de jeunesse qui, en effet, révèle bien le côté romantique de Tocqueville. Alors, qui se focalise sur la culture gréco-latine qu'il a reçue au lycée. Il a fait des dissertations, d'ailleurs, en latin. Nous les avons dans les archives Tocqueville. Qui aussi se focalise sur le grand thème de Chateaubriand, mais pas seulement Chateaubriand, qui est de retrouver l'homme primitif, comme il dit dans ce texte, les premiers âges du monde. Les premiers âges du monde, c'est ce que Chateaubriand lui-même est allé chercher en Amérique. Le jeune Chateaubriand est parti pour l'Amérique, pour fuir la Révolution française, et il a publié un livre, Le Voyage en Amérique, en 1827. Et donc, ce livre, le Voyage en Amérique, va encore plus intéresser Tocqueville, qui va, si j'ose dire, s'expliquer avec, implicitement.
Alors, de quelle manière ?
Ce sera surtout vrai pour le texte « 15 jours dans le désert », n'est-ce pas ? Qui est aussi un texte non publié, posthume, publié par Gustave de Beaumont. Il s'agit de méditer et de retrouver la mélancolie, qui est vraiment le mot. La mélancolie, c'est le grand thème de l'époque. Hein. Chateaubriand, Madame de Staël, etc. Toute cette époque, c'est le culte de la mélancolie. Il s'agit de retrouver la mélancolie dans les forêts américaines. Et dans une lettre assez méchante de 1851 à Madame de Circourt, il osera...
Qui est Madame de Circourt ?
Madame de Circourt était l'une de ces aristocrates qu'il fréquentait, puisqu'il ne fréquentait que des sociétés de châteaux, n'est-ce pas ?
Puisque lui-même était issu d'une famille aristocratique.
Ah, absolument.
Fasciné par la démocratie, mais il n'en reste pas moins aristocrate de cœur.
Oui. De cœur, oui, bien sûr. Il essaie de vaincre, si vous voulez... sa nostalgie, cette fois-ci c'est le mot qu'il faut employer, pas mélancolie mais nostalgie. Il essaie de vaincre sa nostalgie pour les temps d'avant la Révolution française et il se persuade que désormais le seul avenir de l'aristocratie c'est de servir. Service public. Son père est préfet sous la Restauration et lui acceptera la Seconde République en 1848 et il voudra servir la République. Il sera d'ailleurs ministre des Affaires étrangères.
Alors, quelle est cette lettre qu'il écrit
à Madame de Circourt ?
Oui.
Il lui dit que Chateaubriand n'a pas rendu la beauté des forêts américaines et il n'a pas montré la petitesse de l'être humain à côté de ces immenses forêts. Ce qui est méchant et en partie faux. Mais pour dire qu'il a traîné durant toute sa carrière où il rêvait d'être écrivain et n'arrivait pas à être écrivain, il a rêvé d'être un écrivain. Un écrivain au sens littéraire, bien sûr. Et il a traîné sa relation à Chateaubriand, toujours très complexe. Il y a une lettre où il raconte une entrevue avec Chateaubriand. Chateaubriand arrive chez lui, il vient de lire La Première Démocratie, que son neveu par alliance lui a envoyé, Tocqueville lui a envoyé. Et Tocqueville est à la fois content de l'admiration de Chateaubriand et mécontent des critiques, on ne sait pas trop lesquelles, que lui fait le grand écrivain. Cette relation est très importante. Ils ont tous les deux, Marc Fumaroli a montré dans son livre sur Chateaubriand, que tous les deux, ils n'ont cessé d'échanger des idées, des sentiments. Comme Chateaubriand l'a écrit, c'est d'abord lui qui a influencé Alexis de Tocqueville pour l'approche de l'Amérique. Et c'est ensuite Alexis de Tocqueville qui a influencé Chateaubriand à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Chateaubriand qui meurt en 1848.
En tout cas, quand Tocqueville entreprend de voyager en Italie, ça fait partie d'un parcours assez classique de l'élite.
Le grand tour, on appelle ça le grand tour. Moi, je vais très souvent à Naples et chaque fois à Naples, on me parle du grand tour. On a gardé le mot français. Les jeunes de bonne famille doivent faire le grand tour en Europe.
Et ce qu'on
Goethe le fait aussi. Goethe le fait aussi.
Et ce qu'on entend dans le texte en Sicile, dans ce voyage en Sicile, effectivement, c'est tout un emprunt, une manière très empruntée de parler qui ne ressemble pas à l'écriture que l'on connaît de Tocqueville, en tout cas dans la démocratie en Amérique ou par exemple dans l'Ancien Régime et la Révolution.
Oui, enfin, sauf par instant, mais vous avez raison, nous ne sommes pas là encore dans le style tocquevillien, qui est très curieux d'ailleurs dans la démocratie en Amérique. Ça procède par verset, si j'ose dire. Vous avez 3 lignes, 15 lignes, 2 lignes, 15 lignes, 3 lignes.
Et... C'est très difficile de faire lire des textes de la démocratie en Amérique par un comédien, parce que ce sont des très beaux textes, très lucides, très, très pertinents, touchant très juste. Mais effectivement, tout est entrecoupé.
Oui,
des petites démonstrations viennent ponctuer les différentes hypothèses et thèses.
Ah, c'est un style original. Un peu comparable à Nietzsche, parce que Nietzsche parfois écrit comme ça, mais enfin le contenu est très différent et la démarche est différente. C'est un style très original. Il a créé son style. On reconnaît tout de suite 2 pages de Tocqueville.
Et en quoi a-t-il échoué à être écrivain alors, Tocqueville, puisque finalement il a réussi à trouver un style, puisque finalement il a trouvé aussi de quoi décrire la fragilité de la condition humaine. Qu'est-ce qu'on pressent dans ce voyage en Sicile qui ne prendra pas la forme qu'il aurait voulu lui donner, en tout cas en termes d'écriture? Est-ce qu'il a voulu tenter quelque chose qui n'a pas fonctionné, à savoir ce style lyrique, romantique, où on retrouve du Chateaubriand, mais aussi un petit peu de Rousseau, il faut le dire.
Oui,
On a quelques échos des rêveries.
Ben, il n'a pas réussi à créer un personnage imaginaire, je crois que c'est simplement ça. Il n'a pas fait des romans. Alors que, par exemple, Gustave de Beaumont a tiré un roman de son voyage en Amérique, Marie ou l'esclavage en Amérique, qui est un plaidoyer pour les Noirs américains. Simplement, il n'est pas Balzac, voilà. Il n'aime pas Victor Hugo, pareil, il a une relation avec Victor Hugo qui est encore beaucoup plus négative qu'envers Chateaubriand. Écoutez, le livre qui a passionné le 19e siècle, nous avons peine à le comprendre aujourd'hui, le livre qui a été pastiché 100 fois, le livre qui revient tout le temps, René Raymond le montre bien dans sa très belle thèse, dans son très beau livre en 2 volumes sur l'opinion française et l'Amérique, l'Amérique devant l'opinion française, chez Armand Collin, c'est Atala de Chateaubriand. Qui est, nous aujourd'hui, quand on lit Atala, les bras nous tombent un peu. Et la lune prêta son pâle...
Quand on le lit.
Oui, moi je l'ai lu dans La Gare des Michards. La lune prêta son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Alors là, on a vraiment le romantisme le plus éculé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce livre qui fascine tous les jeunes gens de l'époque. Gustave de Beaumont et Tocqueville se récitent par cœur, avant de partir en Amérique, des pages entières de Chateaubriand.
Alors il est temps de partir maintenant.
Partons.
Aux États-Unis.
Des philosophes ont cru que la nature humaine, partout la même, ne variait que suivant les institutions et les lois des différentes sociétés. C'est là une de ces opinions que semble démentir à chaque page l'histoire du monde. Les nations, comme les individus, s'y montrent toutes avec une physionomie qui leur est propre. Les traits caractéristiques de leur visage se reproduisent à travers toutes les transformations qu'elles subissent. Les lois, les mœurs, les religions changent, l'empire et la richesse se déplacent, l'aspect extérieur varie, l'habillement diffère, les préjugés s'effacent ou se substituent les uns aux autres. Parmi ces changements divers, vous reconnaissez toujours le même peuple. Quelque chose d'inflexible apparaît au milieu de la flexibilité humaine. Les hommes qui habitent cette petite plaine cultivée appartiennent à deux races qui, depuis près d'un siècle, existent sur le sol américain et y obéissent aux mêmes lois. Ils n'ont pourtant rien de commun entre eux. Ce sont encore des Anglais et des Français, tels qu'ils se montrent au bord de la Seine et de la Tamise. Pénétrez sous cette cabane de feuillage, vous y rencontrerez un homme dont l'accueil cordial, la figure ouverte et les lèvres entrouvertes vous annonceront dès l'abord le goût des plaisirs sociaux et l'insouciance de la vie. Dans le premier moment, vous le prendrez peut-être pour un Indien. Soumis à la vie sauvage, il en a adopté volontairement les habits, les usages et presque toutes les mœurs. Il porte les mocassins, le bonnet de loutre et le manteau de laine. Il est infatigable chasseur, couche à l'affût, vit de miel sauvage et de chair de bison. Cet homme n'en est pas moins pourtant encore un Français. Placé de l'autre côté du fleuve, au milieu des roseaux de la Saguenay, l'Indien jette de temps en temps un regard stoïque sur les habitations de ses frères d'Europe. N'allez pas croire qu'il admire leurs travaux ou envie leur sort. Depuis bientôt 300 ans que le sauvage de l'Amérique se débat contre la civilisation qui le pousse et l'environne, il n'a point encore appris à connaître et à estimer son ennemi. Les générations se succèdent en vain chez les deux races. Comme deux fleuves parallèles, elles coulent depuis 300 ans vers un abîme commun. Un espace étroit les sépare, mais elles ne mêlent point leurs flots.
Lucien Jaume, vous avez évoqué ce texte qui n'a pas été publié d'Alexis Tocqueville, c'est 15 jours dans le désert. Il l'a écrit en 1831, quand il était précisément en expédition aux États-Unis avec son grand ami Gustave de Beaumont. Alors il faut le rappeler, Tocqueville et Beaumont partent aux États-Unis au départ pour y faire une enquête sur le système pénitentiaire. Il en ressortira un texte qui sera publié, mais c'est aussi l'occasion de découvrir la démocratie en l'état, en acte, et puis d'aller, dit-il, au-delà des villes, jusqu'au-delà des lacs, pour découvrir les Indiens. Cette civilisation qui a subi l'invasion des Européens. Ce qu'on entend exactement dans ce texte interprété par Georges Claes.
Oui, oui, oui. En fait, ce texte, si on regardait les 3-4 pages complètes, on verrait qu'il s'agit du français, il s'agit de l'anglais, il s'agit de l'Indien qui regarde avec beaucoup de mépris la recherche du confort, les commodités de la vie par les Français et l'Anglais. Et puis, il s'agit d'une femme métisse. Et elle, Tocqueville en dit, ses goûts sont en contradiction avec ses idées, car cette femme métisse est entre la civilisation européenne et la sauvagerie, entre guillemets, parce que Tocqueville va montrer que cette sauvagerie a quand même des côtés riches. Voilà. Et tout cela, dit-il, c'est un tableau, je cite, des misères de notre nature. Alors, les misères de notre nature, c'est encore du Pascal, misère de l'homme. Pourquoi les misères de notre nature? Parce que les Français, les Anglais, l'Indien et la Métisse se regardent avec méfiance, se regardent avec crainte, ne collaborent pas entre eux, alors qu'ils sont à la limite de la colonisation. À ce moment-là, en 1831, c'est là que la colonisation des colons américains s'arrête, américains et européens. Donc, ils ont affaire à une nature très difficile, une nature sauvage, à des hivers terribles, etc., etc. Eh bien, ils ne collaborent pas entre eux. Ce sont des fleuves parallèles. Ils ne coopèrent pas entre eux. L'Indien reste indien, bien entendu. Il regarde avec mépris la recherche du confort européen. Le Français reste français, l'Anglais reste anglais. L'Anglais apporte chez lui un peu de Shakespeare et un peu de la Bible. Dans les cabanes des Anglais, Tocqueville retrouve cette littérature. Le Français, lui, s'est transformé, mais prétend-il, en même temps, il est en pleine contradiction avec lui-même, parce que il a fallu s'adapter. Et dans un passage qu'on n'a pas lu, il dit « L'Européen le plus civilisé, c'est le Français, est devenu l'adorateur de la vie sauvage. » Donc ce sont des gens qui vivent des tensions très très fortes, mais ils ne s'associent pas. Que va devenir cette Amérique où l'Indien est complètement séparé du Blanc, où le Français ne veut pas parler à l'anglais, où la métisse est entre deux mondes? Que va devenir cette Amérique? C'est l'interrogation que se pose Tocqueville. Et s'il avait pu voir un président noir élu président des États-Unis, il en serait tombé de sa chaise. Car il disait avec beaucoup de tristesse, dans certains chapitres, que jamais le noir ne sera reconnu par le blanc américain.
Vous faites allusion à la fin du premier volume de La démocratie en Amérique, exact, qui porte sur les trois races des États-Unis. Il emploie ce terme de race à la
fin. Oui, race à l'époque, il ne faut surtout pas prêter le contenu postérieur. Race, ça veut dire des nations, des ethnies, voilà, bon, point.
Et effectivement, la thèse de Tocqueville, c'est de dire que l'égalisation des conditions qui est propre à l'État social démocratique n'empêche pas les rivalités, voilà, et que, qu'il s'agisse de la loi ou des mœurs, finalement, il y a quelque chose qui peut résister, de l'ordre, effectivement, de la rivalité. Il emploie ce terme de rivalité. Et d'impossibilité de fusion de tous les peuples.
Oui. Et pour les religions, il dit, voilà, j'ai affaire à 4 ou 5 religions, et ces 4 ou 5 religions, qu'est-ce que ça va donner aussi, enfin? Ça donne le pluralisme américain. À certains endroits du livre, il admire ce pluralisme religieux. Mais dans ces pages, c'est dans ces pages où il considère que le catholicisme, l'anarchie religieuse de la Réforme, comme il dit, l'antique paganisme trouve ici leur représentant. On y adore de 6 manières différentes l'être unique et éternel.
Ça vous fait sourire?
Ça me fait sourire comme lui souriait, parce que, vous comprenez, il arrive de la France de la Restauration, où le catholicisme est religion d'État, où le poids de l'État est considérable, où les hiérarchies sont considérables, mais où il y a une identité de la nation française sous son roi et sous son État. Vous comprenez, il y a cette unité française qui est tellement forte depuis la monarchie absolue. Et là, il a affaire à un pays de la diversité et puis de la création constante. À tout instant, les Américains créent de la circulation, créent de la richesse, créent de l'installation. Enfin, il est devant un pays qui, littéralement, pousse devant ses yeux.
Et il hésite, on le sent, entre deux extrêmes, entre deux écueils qui seraient l'identité, l'unité figée, telle que la France veut le présenter, et l'extrême diversité des États-Unis qui lui semble être impossible. Et finalement, on entend dans ce texte que la nature humaine, selon lui, ne change pas seulement en fonction des institutions et des lois, mais à de profondes différences. Comment faut-il entendre ces différences qu'il observe sur le terrain? Comment les interprète-t-il? Comment fait-il face à cette diversité? Et qu'est-ce qu'il en tire?
Alors, comment il faut l'entendre? Il part de lecture de Montesquieu. C'est un auteur très important pour toute cette génération. Et Montesquieu avait fait la théorie de l'esprit général d'un peuple. Tocqueville, donc, a cela en tête, et de ce point de vue, il le retrouve quand il dit que sous les changements divers, vous reconnaissez toujours le même peuple. Mais par ailleurs, dans la situation de la démocratie, une tendance à l'égalisation, mais aussi à l'identité, à l'identification les uns envers les autres, va se produire. Alors, c'est une tension subtile entre l'énorme diversité des immigrants et la tendance démocratique qui, d'après Tocqueville, est une tendance à l'homogénéité. Tôt ou tard, les gens vont adopter les mêmes façons de vivre. Tôt ou tard, ils vont parler le même langage. Tôt ou tard, il va se former une opinion collective qui va devenir, d'ailleurs, très oppressive même pour la liberté de penser. Il écrit qu'il n'a pas vu de pays plus conformiste que les États-Unis. C'est quand même terrible. Lui qui fait l'éloge de la liberté américaine dit en même temps qu'aux États-Unis, le conformisme est effrayant. Et tout d'un coup, l'opinion bascule. Jusqu'à présent, elle avait soutenu telle thèse. Elle est énorme, elle est majoritaire. Malheur à celui qui s'exprime contre. Puis tout d'un coup, elle bascule. Elle change complètement. Et Là, ce sont les observations d'un sociologue. Comment le comprendre ? Ben, c'est un observateur qui, en réalité, veut apprendre aux Français qu'autre chose est possible. Il a écrit à son cousin et confident Louis de Kergorlay, il a écrit une lettre où il dit « Il n'y a pas une seule page, pas une seule page où je n'ai pensé à la France. De la démocratie en Amérique, sous-titre implicite, et de la démocratie à venir en France. Car nous prendrons le chemin américain. Nous aussi, nous allons vers cette uniformisation, vers cette concurrence perpétuelle des individus les uns envers les autres. Nous aussi, nous allons connaître la liberté de la presse que la France ne connaît pas à l'époque. Nous aussi, nous allons connaître la liberté d'association. Nous aussi, nous allons connaître le pluralisme religieux. Nous aussi, nous allons connaître la dictature de l'opinion publique, etc., etc., etc. »
Finalement, est-ce qu'il le déplore ou est-ce qu'il le célèbre ?
Les deux.
Il y a une ambiguïté.
Il y a une ambivalence qui est constitutive de son esprit. Lui, élevé dans le légitimisme, élevé dans le catholicisme, élevé dans la civilisation des châteaux, élevé dans la tradition du grand Malesherbes et du grand Lamoignon, les grands magistrats de l'Ancien Régime. Il est entre deux mondes, comme dirait Fumaroli à propos de Chateaubriand, qui lui ressemble beaucoup à ce point de vue. Hein, parce que tous les deux, ils ont les mêmes racines et finalement, ils ont souvent la même attitude devant les Américains. Chateaubriand termine républicain, à la fois éperdu d'admiration devant ce que peut la démocratie américaine et effrayé par le pouvoir de l'argent. Ben ça, c'est Tocqueville. Pareil, pareil. Comme il écrit, la démocratie crée des merveilles, mais il est effrayé par la puissance industrielle qui monte, qui sera peut-être une nouvelle aristocratie. Il est effrayé par le goût du gain chez les Américains, l'appétit du lucre. Un pays où, comme il dit, les Américains transposent le négoce dans la politique. Et les présidents américains seront de plus en plus médiocres, écrit-il. Aïe !
Donc Tocqueville est entre deux mondes ?
Oui.
Il n'a pas complètement envie d'importer la démocratie américaine en France.
Non.
Il tient à l'idée qu'il y a une diversité des populations dans le monde. La démocratie telle qu'elle n'est pas exportable ou importable des États-Unis. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais effectivement, il déplore certaines dérives de la démocratie. C'est la grande contribution de Tocqueville quand on le lit sur l'état social démocratie, pas seulement en tant du coup que régime politique, mais en tant qu'état social.
Que société. État social, comme vous dites, oui, c'est son concept.
En s'intéressant d'abord à ce qui constitue les passions, les idées, les instincts, plus que les lois et les institutions. Et c'est ça aussi l'écriture, peut-être qu'on commence à sentir poindre dès 15 jours dans le désert.
Oui, en effet.
D'écrire, de saisir les caractères moraux qu'il rencontre lors de ses voyages, et puis aussi, de décrire en souterrain des signes imperceptibles d'un état social.
Tout à fait d'accord, oui. Mais c'est en 1831, hein. C'est-à-dire qu'il est dans le voyage, là, il est aux États-Unis depuis 3 mois, et ça prépare en effet ce qu'il va publier en 1835 et en 1840, la démocratie numéro 1, la démocratie numéro 2, volume 1, volume 2. Tout à fait.
La journée que j'ai passée à Warwick est probablement, de toutes celles passées en Angleterre, celle qui laisse le plus de souvenirs dans ma mémoire. Nous n'avons pour ainsi dire rien en France qui rappelle les temps féodaux, ces siècles de liberté, d'oppression, de grands crimes et de sublimes vertus, d'enthousiasme et d'énergie qui vivront dans l'imagination des hommes tant qu'il y aura un peu de poésie sur la terre. J'éprouvais donc une espèce d'étourdissement lorsqu'après avoir quitté la rue de Warwick et passé la route qui conduit au château, je me trouvais tout à coup dans la demeure intacte d'un des guerriers les plus extraordinaires du Moyen-Âge. Quel site, Marie ! Quelle magnifique idée il donne de la grandeur sauvage des féodaux ! Après avoir suivi une route creusée profondément dans le roc vif et rendue obscure par l'ombre épaisse qui projette des arbres immenses, vous arrivez sur le sommet d'un rocher à pic, au bas duquel coule l'Avon. De l'autre côté, toutes les prairies entremêlées de massifs de chênes. Sur le sommet de ce rocher s'élève le manoir gothique, perché comme un nid d'oiseau au milieu des chênes et des pins centenaires. Le dedans du château répond au dehors. La salle d'armes est à elle seule plus grande que la plupart des maisons de nos jours. Et dans la cheminée qui la chauffe, on pourrait bâtir une chambre assez commode. Comme tout ce qui est neuf ici est fait dans le goût de ce qui est vieux, l'impression produite est complète et le présent ne gâte pas le passé ainsi qu'il arrive presque toujours. Je suis sorti du château de Warwick dans un état d'excitation intellectuelle et quoiqu'il commençât à faire nuit, je louai un cheval. Imaginez-vous une nuit d'Italie, pas une haleine de vent, un ciel sans nuages, la lune dans son plein, ajoutez à cela un cheval ardent et léger entre les jambes, tous les siècles de chevalerie dans la tête, et quelque peu du feu de la jeunesse circulant encore dans les veines, et vous concevrez que je ne touchais pour ainsi dire pas la terre.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, aujourd'hui en compagnie de Lucien Jaume pour évoquer Alexis de Tocqueville, de l'Amérique à l'Algérie, Alexis de Tocqueville explorateur, mais aussi de l'Angleterre, qui dans cette lettre qu'il écrit à Marie Motley, c'est sa femme, hein, c'est le 30 août 1833, lui évoque cette nuit chevaleresque où il se retrouve plongé des siècles en arrière, les siècles de l'aristocratie, et je le rappelle, Tocqueville, fasciné par la démocratie, est parti aux États-Unis, mais quand il retourne en Angleterre, il retrouve son aristocratie de cœur.
Oui, il est le libéral qui, au lieu de prendre pour modèle le système politique anglais, prend pour modèle, enfin, du moins pour comparaison, le système politique américain. Et pour en avoir le cœur net, si j'ose dire, il va quand même aller voir l'Angleterre féodale. Et en effet, là, il y va avec son cœur d'enfant de la noblesse, mais aussi avec dans la tête Walter Scott. Walter Scott, passion de toute cette génération. Et on ne peut pas tout lire, mais dans la page qui suit ce qui a été lu, il va au château de Dudley, de Robert Dudley, à Kenilworth. Et Kenilworth, c'est le titre d'un roman de Walter Scott qu'il est en train de revivre alors en allant dans ce deuxième château féodal, plus ancien d'ailleurs, du XIIIe siècle. Et il écrit à Marie Motley que la lune étant dans ce château dont il reste uniquement des ruines, cette fois-ci le deuxième, n'est-ce pas ? Eh bien, la lune, en pénétrant de toutes parts à travers les fenêtres gothiques qui les garnissent, qui garnissent les étages, il jetait une lueur sépulcrale, d'accord avec l'ensemble des objets, n'étais-je pas là, en effet, dans les domaines de la mort ? L'aristocratie, en tant que féodalité, est morte. Et il faut bien le comprendre. Tocqueville, qui se nourrit de Walter Scott, pense à elle, c'est-à-dire pense au chevaleresque, pense au combat, à la guerre. Il ne faut pas oublier que Tocqueville admirait beaucoup les arts de la guerre. Mais c'est terminé du point de vue de la féodalité. Ce sont les domaines de la mort et on ne pourra pas revenir en arrière. Contrairement notamment à son frère Édouard qui va être de plus en plus réactionnaire et qui va saluer le coup d'État de Napoléon III, qui va être de plus en plus droitier.
Alors que Tocqueville, il voit vraiment l'échec
de la démocratie. Il démissionne de son mandat de député, il démissionne de son mandat de conseiller général de la Manche. Il ne veut plus avoir part à la vie politique, il se retire dans son château,
à Tocqueville,
dans son château, où il fait ses bonnes œuvres auprès des paysans. Et là, il cultive ce souvenir qui est une nostalgie, mais encore une fois, jamais, 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 il n'a accepté l'idée qu'on pouvait revenir avant 1789. Avant la Révolution française.
Alors comment faire précisément ? Parce que la démocratie, il est face à des dérives possibles quand il va aux États-Unis. Il voit en Angleterre que la démocratie, c'est aussi l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il y a, en 1835, il retourne en Angleterre, il va à Birmingham et il décrit, il faut lire d'ailleurs ces pages magnifiques, j'en cite quelques lignes, « Levez la tête, vous verrez s'élever les immenses palais de l'industrie, vous entendrez le bruit des fourneaux, les sifflements de la vapeur. Ces vastes demeures empêchent l'air et la lumière de pénétrer dans les demeures humaines qu'elles dominent. Elles les enveloppent d'un perpétuel brouillard. Ici est l'esclave, là est le maître. Et je passe des lignes et des lignes où il décrit magnifiquement cet endroit infâme qu'est l'industrie à Birmingham. Finalement, que fait Tocqueville pour résister à ces dérives de la démocratie? Est-ce que c'est par l'écriture, par une manière d'écrire, qu'il a voulu aussi peut-être résister? Vous parliez de Germaine de Staël, de Chateaubriand. Il faut aussi dire que pour eux, l'écriture peut être une écriture liée à un régime politique, liée à un état social. Est-ce que l'écriture, pour lui, lui apparaît comme une manière d'agir politiquement?
Oui, tout à fait. Il s'est servi de démocratie en Amérique dans ses campagnes pour être élu député. Ce que Tocqueville a découvert, là, en Angleterre, c'est le prolétariat. La grande question du XIXe siècle, le prolétariat. Et c'est une question qui le poursuit en littérature et en politique. Il écrit deux mémoires sur le paupérisme, selon l'expression, n'est-ce pas, pour l'Académie de Cherbourg. Il a voulu fonder un parti politique à la Chambre où il veut se situer au centre-gauche. Il refuse absolument d'être situé à droite. Et donc, il se situe au centre-gauche. Il a voulu fonder un parti, mais ce parti n'a pas pu voir le jour. Ça aurait été un parti tout à fait micro-parti, qui se serait occupé de la question sociale, notamment. Donc, de ce point de vue, parmi les dérives possibles de la démocratie, ce qu'il craint, c'est la ploutocratie. Ce qu'il craint, c'est le règne écrasant de l'argent, tout en, évidemment, combattant, par ailleurs, il faut tout de suite le dire, le socialisme. Ce qu'il redoute, c'est le socialisme et le communisme. Sous la Seconde République, il est républicain tout à fait loyal, mais il est antisocialiste à fond, notamment dans la fameuse discussion sur le droit au travail, n'est-ce pas? Voilà, voilà sa position, c'est un centriste, hein, c'est un centriste libéral, républicain quand il faut être républicain, considérant que la question du prolétariat était l'une des plaies de la démocratie industrielle.
Et donc dans l'écriture, est-ce qu'il tente de faire passer quelque chose d'aristocratique, d'un temps passé, d'un esprit sublime?
Ah, alors, sur l'écriture, il a beaucoup réfléchi. Il y a plusieurs lettres de lui très intéressantes sur le style. Il réfléchit beaucoup sur les images, il réfléchit beaucoup sur le poétique dans le style. Il considère que l'écriture est le moyen de faire voir en voilant, c'est encore un jansénisme là qui apparaît, il faut montrer la vérité au lecteur, mais il faut montrer cette vérité sans violence et sans trop de clarté. Il faut montrer cette vérité comme derrière un voile. Il y a de très belles lettres de lui là-dessus, sur comment écrire. Et ça, c'est politique. Ça, c'est politique parce qu'à partir du moment où vous faites cela, forcément, vous allez produire des effets chez les lecteurs. Voilà, vous travaillez pour le progrès, mais pas comme les socialistes, vous voyez. C'est bien une écriture très souvent. Alors, faut-il dire aristocratique? C'est une écriture où il n'y a jamais, dans Démocratie en Amérique, il n'emploie pas des termes compliqués, il n'emploie pas des termes précieux. Il a horreur de la préciosité. Il ne tombe pas dans cette idée que, par mépris pour le vil peuple, on va écrire avec jamais de préciosité chez Tocqueville.
Mais c'est quelque chose qu'il garde des États-Unis parce qu'il le dit dans La démocratie en Amérique que la manière de parler des Américains est un style beaucoup plus informel et beaucoup plus simple et clair. Il oui. dit même il faut dire des choses assez larges pour que l'infinité des détails puisse s'y trouver contenu.
Et en même temps, le défaut de la démocratie, c'est les idées générales. En démocratie, on aime beaucoup les idées générales. Il essaie de montrer que cette propension aux idées générales, alors les Français là sont tout à fait engagés dans la bonne voie, cette propension aux idées générales est liée à l'égalité. L'égalité étant bien entendu une représentation imaginaire. C'est-à-dire qu'on veut toujours être l'égal du supérieur, en France en tout cas. Mais enfin aux États-Unis, on veut aussi être l'égal d'inférieur et donc au besoin on cache le mépris qu'on a pour les autres. Dans mon livre, j'avais reproduit une page que vous connaissez,
hein,
une page écrite à la façon de La Bruyère, puisque La Bruyère est aussi l'auteur qui a beaucoup plu à Tocqueville dès ses années de lycée. Et voilà par exemple une page donc, qui est dans la première démocratie en Amérique, le premier volume. « Voyez-vous cet opulent citoyen ?» Ne dirait-on pas un juif du Moyen-Âge qui craint de laisser soupçonner ses richesses ? Sa mise est simple, sa démarche est modeste. Entre les quatre murailles de sa demeure, on adore le luxe. Il ne laisse pénétrer dans ce sanctuaire que quelques hôtes choisis qu'il appelle insolemment ses égaux. On ne rencontre point de noble en Europe qui se montre plus exclusif que lui dans ses plaisirs, plus envieux des moindres avantages qu'une position privilégiée assure. Mais le voici qui sort de chez lui pour aller travailler dans un réduit poudreux qu'il occupe au centre de la ville et des affaires, c'est New York, et où chacun est libre de venir l'aborder. Au milieu du chemin, son cordonnier vient à passer, et il s'arrête. Tous deux se mettent alors à discourir. Que peuvent-ils dire ? Ces deux citoyens s'occupent des affaires de l'État, et ils ne se quitteront pas sans s'être serré la main. Paragraphe suivant. Au fond de cet enthousiasme de convention et au milieu de ces formes obséquieuses envers le pouvoir dominant, il est facile d'apercevoir dans les riches un grand dégoût pour les institutions démocratiques de leur pays.
On retrouve là l'écriture de Tocqueville, cette manière de décrire ce qu'il a rencontré lors de ses voyages et d'en tirer un caractère.
J'ai pensé à Hogarth, vous savez, les croquis comme ça de la vie, des croquis de la vie pris sur le vif. Et puis il y a la Bruyère, les caractères derrière. La Bruyère décrit Ménal, que décrit un tel, qui sont des symboles d'un vice, d'une passion. Là, nous avons un riche qui doit cacher le mépris qu'il a pour les pauvres.
Et c'est ça le style...
Tocquevillien.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que...
Un moraliste.
Lors de ses voyages, alors, on peut le trouver, c'est dans ses œuvres, il y a à la fois des textes plutôt lyriques, très rédigés, Voyage en Sicile, Voyage aussi en Algérie, dont on entendra tout à l'heure un extrait. Et puis, il y a aussi tout ce qui est prise de notes. Alors, c'est les carnets portatifs, les carnets alphabétiques, les carnets non alphabétiques.
Oui.
Et on sent bien que Tocqueville alterne sans cesse jusqu'à les deux, entre un style très littéraire et un style beaucoup plus déductif, scientifique,
oui.
De terrain.
Tout à fait. Nous avons là quelqu'un qui est un enquêteur, et dans ses carnets, c'est l'entretien, n'est-ce pas, directif. Il pose des questions et il note avec précision les réponses. Nous avons un enquêteur d'un côté, et de l'autre, nous avons un très grand imaginatif. Qui est animé de sentiments, de passions, de désirs, d'enthousiasme, de dégoût, enfin, etc. Et en effet, le style démocratie en Amérique est curieux, parce que tantôt nous avons le pôle objectif et tantôt nous avons le pôle le plus subjectif.
Et on n'arrive pas à savoir s'il est du côté de la description ou du côté de la normativité. C'est-à-dire que la démocratie en Amérique et ses textes ne sont pas des traités politique, ils n'énoncent pas des devoirs
non.
Être, ils énoncent des descriptions des êtres, finalement.
Oui. Avec, cependant, de temps à autre, des points d'ironie, et puis il y a quand même des admirations, par exemple, l'importance de la religion. Ils considèrent que la démocratie ne peut pas vivre sans religion. Alors là, il se prononce, il prend parti. Mais c'est vrai que c'est au lecteur français, parce qu'encore une fois, il pense toujours au lecteur français dans la France de la Restauration, de se prononcer.
Nous sommes arrivés ce matin à Philippeville après la plus belle traversée que nous ayons encore faite. Une mer calme comme un fleuve, un temps magnifique sans être trop chaud, et à deux portées de canon, la côte. Une côte comme j'en ai vu peu dans ma vie. Cette partie de l'Algérie est infiniment plus belle que les autres. De hautes montagnes viennent tomber jusque dans la mer. Ces montagnes sont couvertes d'arbres ou de pâturages jusqu'au sommet. À chaque instant, elle s'ouvre pour faire jour à de charmantes vallées cultivées et couvertes de troupeaux. Tout cet immense groupe de monts et de vallées est essentiellement peuplé de Kabyles. C'est un pays enchanteur cultivé par des sauvages. Tant que nous ne mettons pas le pied sur le territoire de ces hommes, ils ne nous disent rien et font le commerce avec nous. mais malheur à celui qui voudrait se promener dans le beau pays qu'ils habitent. Ils se font du reste sans cesse la guerre entre eux et vivent, dit-on, dans une grande anarchie. Mais au milieu de tout cela, ils ont de magnifiques cultures, de beaux troupeaux, des fabriques d'étoffes, de poudre et d'armes. On ne saurait bien concevoir que les mêmes hommes puissent être par de certains côtés si civilisés et par certains autres si sauvages. En approchant de Philippeville, les montagnes s'abaissent et on entre de nouveau dans la contrée des Arabes. À la première vue de Philippeville, je me suis cru en Amérique. Il y a 2 ans, c'était une plage déserte. Aujourd'hui, la ville contient déjà 5 000 habitants civils. Je te laisse juger du désordre qui accompagne une création si rapide. Tout se fait à la fois. On trace des rues, on bâtit des maisons, on est au milieu des décombres de toute espèce. Et tout a une physionomie d'activité fébrile que je n'avais rencontrée nulle part depuis les États-Unis.
Lucien Jaume, on arrive presque au terme de notre exploration avec Tocqueville. Après la Sicile, après les États-Unis, après l'Angleterre, nous voilà en Algérie. C'est en 1841, il effectuera un autre voyage en 1847. Et oui. Dans cette lettre à son frère Édouard, il écrit de Philippeville. Alors Philippeville, c'est Skikda, donc au bord de la Méditerranée. Et là, on a un Tocqueville qui est beaucoup plus normatif, qui est dans la description de la ville qu'il découvre, mais qui est beaucoup plus normatif que dans ses autres textes, puisqu'on en parlait. Puisqu'en fait, Tocqueville, il va en Algérie dans un but de colonisation. C'est-à-dire qu'il a en tête quand même l'empire que la France pourrait étendre au nord de l'Afrique.
Oui, tout à fait. La monarchie de Juillet s'est installée en Algérie. Il va y avoir la terrible guerre avec Abdelkader, qui, cela dit, va devenir chez nous à Paris un hôte illustre et qui va être très très heureux finalement de vivre avec les Français. C'est un grand soufiste. Attention, c'est une lettre à Édouard. Attention. C'est-à-dire qu'il sait très bien que Édouard et lui ne sont pas...
Son frère, je le rappelle.
Oui, son frère. L'un de ses deux frères. Ils ne sont pas du tout d'accord en politique. Édouard est tout à fait réactionnaire. Donc, il s'agit de montrer que les Kabyles, qu'il distingue très bien les Arabes, vous avez vu, après nous entrons dans la contrée des Arabes. Tocqueville sait très bien distinguer l'identité Kabyle et l'identité arabe, ce qui à l'époque est un remarquable effort d'analyse. Les Kabyles n'ont rien à voir avec les Arabes. Encore jusqu'à aujourd'hui, le problème se pose. Autre langue, autre culture, autre religion, etc. Donc, il s'agit de montrer que certes, ce sont des sauvages, pas civilisés, et en même temps, il s'agit de montrer qu'ils ont de magnifiques cultures, de beaux troupeaux, des fabriques d'étoffes, de poudre et d'armes. Et vous me citez ce Tocqueville normatif, mais savez-vous que le même jour, le 30 mai 1841, dans ses carnets de notes de voyage, voici ce qu'il écoute en parlant avec un marin qui possède des terres et qui dit qu'il faut déplacer les populations, déplacer les tribus et les déporter et prendre leurs terres. Et moi, dit Tocqueville, écoutant tristement toutes ces choses, je me demandais quel pouvait être l'avenir d'un pays livré à de pareils hommes. C'est un Français, le marin. Et où aboutirait enfin cette cascade de violence et d'injustice, sinon à la révolte des indigènes et à la ruine des Européens.
Mais de la même manière que quand il est en Amérique, il dit aussi que la condition morale et l'état physique des peuples indiens n'a cessé d'empirer à mesure qu'on les a repoussés. Alors, il faut quand même se poser la question. Alors, il y a effectivement l'idée de à qui s'adresse Tocqueville. Pourquoi voyage-t-il dans le but de faire un rapport politique, dans le but d'en faire un texte sociologique ou dans le but de faire aussi, de décrire, que ce soit une méditation sur la fragilité de la condition humaine. Mais il faut clarifier ce Tocqueville, ce dernier Tocqueville sur l'Algérie qui peut poser problème parce qu'effectivement, on y retrouve moins le Tocqueville observateur, attentif, descriptif, plutôt qu'un Tocqueville plus conquérant qu'on a moins l'habitude d'entendre dans ses autres voyages.
Oui, il y a eu d'ailleurs une polémique il y a une quinzaine d'années qui a pris des passages de lettres de Tocqueville ou de discours de Tocqueville aussi, le montrant comme un colonialiste absolument assoiffé de sang, absolument impérialiste et massacreur. Le problème, c'est la politique française. C'est-à-dire que Tocqueville est député, il va faire 2 rapports à la Chambre sur l'Algérie, et lui-même envisage d'aller coloniser, de s'établir dans la Mitidja, avec son autre frère, tellement il aime ce pays. Il considère que le gouvernement français de la Monarchie de Juillet, l'armée française et la bureaucratie française se sont pris de la plus mauvaise façon vis-à-vis de peuples très différents de nous et avec qui on pourrait cohabiter. Là, en effet, il y a un projet carrément de cohabitation. Quatre jours avant le passage que je vous ai lu, quatre jours avant, il écrit « Le fait est qu'aucune de nos colonies n'a jamais dans aucun temps été traitée comme Alger. Alger est une singularité en mal, même au milieu de notre détestable système de colonisation. » Alors, quand on a accusé Tocqueville d'avoir soutenu le général Bugeaud, qui a employé des méthodes atroces, par exemple, il a enfumé les femmes et les enfants dans des cavernes, Tocqueville considère qu'on ne peut pas interrompre une politique qui est une politique de grandeur. Mais une politique de grandeur ne voulait pas dire à ses yeux qu'il fallait faire ce que l'administration française faisait et ce que les colons faisaient, c'est-à-dire déporter les tribus, les massacrer, prendre leurs terres. Lui, il voulait que la France collabore avec les Kabyles et les Algériens pour établir sa puissance. C'est un homme qui défend la puissance française. Et la puissance française est en lutte avec l'Angleterre. À l'époque, notre ennemi, c'est l'Angleterre. Notre concurrent et adversaire, c'est l'Angleterre. Alors, il faut voir l'ensemble des choses. Mais là, effectivement, ce n'est plus l'analyse de l'Amérique. C'est l'analyse de quelle est la politique française en Algérie. Elle est exécrable. Et nous allons vers la révolte des indigènes et la ruine des Européens. C'est extraordinaire d'écrire ça en 1841. Hein. C'est extraordinaire. Mais Tocqueville ne renonce nullement à l'expansion française. Ça, c'est clair.
Eh bien, on finira sur cette idée. Lucien Jo, merci beaucoup. Je laisse les auditeurs découvrir ces textes sur l'Algérie et se faire une idée. Je rappelle aussi que les œuvres de Tocqueville sont disponibles dans une multiplicité d'éditions, Gallimard, mais aussi aux éditions Folio, Garnier Flammarion, Robert Laffont. Et puis, il y a aussi ses lettres et souvenirs, c'est chez Gallimard.
Et la Pléiade.
Et en Pléiade, chez Gallimard.
Trois volumes,
dont le premier volume est entièrement consacré à ses voyages. Et puis, je rappelle évidemment, Lucien Jaume, que vous êtes l'auteur de Tocqueville, Les sources aristocratiques de la liberté, que l'on trouve chez Fayard, et plus récemment, sur toute autre chose, Le religieux et le politique dans la Révolution française, l'idée de régénération, collection Léviathan au PUF. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Adèle Vendrette bien sûr, David Pargamin, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Louis Servet, Olivier Bétard à la réalisation, Georges Clès à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui, Juliette Delperroux. Rendez-vous demain pour la suite de nos aventures et de nos explorations. Demain, j'aurai le grand plaisir de recevoir l'anthropologue Philippe Descola qui évoquera tout autant Lévi-Strauss que ses propres pérégrinations. Mais d'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger et la podcaster. Et puis rendez-vous aussi sur les pages Facebook et Twitter des Chemins de la Philo. Vous écoutez France Culture. À midi, vous avez rendez-vous avec Raphaël Bourgois pour la Grande Table. Mais maintenant, à 11h, c'est Culture Monde par Tiffaine de Roquigny.